C'est le dernier cours de l'année au point de vue études. Je ne peux pas tout reprendre ce que nous avons vu et continuer un peu à creuser. Cette différence entre la manière dont un religieux doit aborder le problème de l'existence de Dieu et la manière dont une religieuse doit aborder le problème de l'existence de Dieu. Tout le problème de la personnalité s'achève au moment où l'intelligence humaine, notre intelligence humaine, découvre la nécessité de poser l'existence d'un être humain. Il faut que pour nous, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, ce problème soit posé avec une très grande acuité et la réponse dépendra de cette manière de la poser avec la plus grande acuité possible. Vous comprenez bien, c'est un problème pour nous, c'est un problème pour l'humanité d'aujourd'hui, notre humanité. Nous sommes très mal posés. Notre humanité est très mal posée actuellement pour se poser le problème. Nous savons, depuis que la philosophie des Lumières, la philosophie allemande, a été tellement loin avec Feuerbach sur le rejet de Dieu, le problème de l'existence de Dieu, pour le philosophe, devient un problème nécessaire. On doit se poser le problème. On n'a pas le droit de ne pas se poser. Et on doit se poser en montrant les exigences intellectuelles devant lesquelles on doit se trouver. Étant donné que le problème de la personne humaine exige de poser ce problème de l'existence de Dieu, la découverte de l'existence de Dieu pose tout de suite la dernière dimension nécessaire au problème de la personne. Répond à cette découverte découverte non seulement intellectuelle, mais découverte de ma philosophie, de ma métaphysique, qui saisit toute ma vie humaine. Donc ce problème de l'existence de Dieu saisit toute ma vie humaine. Si Dieu existe, je dois l'adorer. Si Dieu n'existe pas, je dois essayer de conclure de l'existence de la personne humaine peut très bien se passer de l'existence de Dieu. Un problème ultime qui est nécessaire aujourd'hui d'être posé. Puisque, veuillez pas la poser d'une façon tellement forte, tellement nette, que je dois pouvoir y répondre. Je ne peux pas me taire. Le problème de l'existence de Dieu ou de la non-existence de Dieu devient nécessairement un problème ultime à ma philosophie. Je n'ai pas besoin de la découverte de Dieu pour découvrir la substance, pour découvrir l'acte. Non. La saisie de la substance, la saisie de l'acte, c'est la saisie des principes propres de l'être. Ces principes propres de l'être, je les découvre dans l'être existant que je connais, moi. Je suis un être existant. Mon voisin est un être existant. Toutes les réalités qui m'entourent, réalités existantes. Je dois découvrir la nécessité de poser l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Ça devient un problème philosophique que je dois poser d'une façon ultime. Je ne dois pas le poser au début, au point de départ. Mon jugement d'existence, ceci est, ne dépend pas de l'existence de Dieu. Il dépend de la réalité qui existe. Il ne faut pas faire de confusion. Parce que, au fond, aujourd'hui, je dirais, en France, je ne sais pas, je ne peux pas faire le même partage pour les pays, les autres pays, mais vous pouvez le faire, vous. En France, le problème de l'existence de Dieu arrête la question de la recherche métaphysique, ce qui n'est pas juste. La métaphysique existe au point de départ comme une analyse de ce qui est et non pas de ce qui est créé, de ce qui est. Donc ce qui est vrai, beau, tout être qui existe dans ce monde, ça a un sens. Et il arrive au terme à se poser la question, est-ce que ce qui est m'exige de poser l'existence de Dieu? diverses dimensions que j'ai découvertes de la personne exigent de poser l'exemple de Dieu. Je crois que j'ai deux voies qui sont parallèles et qui se tiennent. La voie de la nature, la voie de la personne. Nous avons vu que constamment nature et personne se présentaient à nous. Le problème nature et personne est le problème radical quand il s'agit de l'homme. Si j'étudie l'homme en métaphysique, je suis obligé de voir qu'il y a deux problèmes qui ne cessent de se renvoyer la balle, la nature et la personne. Et je suis bien obligé, si je suis honnête, je suis bien obligé de voir que le monde dans lequel j'existe, c'est poser le problème de la nature en premier lieu. C'est poser le problème de la personne en second lieu. Je crois que ceci est une constatation qu'on ne peut pas nier. Et elle est importante à respecter. Au fond, toute l'histoire de la métaphysique est autour de cette distinction nature-personne. J'ai une métaphysique de la nature, je cherche une métaphysique de la personne. Voilà ce que je dirais quand je constate actuellement cette recherche philosophique. La métaphysique, c'est métaphysique, c'est-à-dire c'est au-delà du monde de la nature. Est obligé de reconnaître. Si Dieu existe, il est au-delà de la nature. Donc, tout le problème de la nature se relativise en raison de l'existence de Dieu. Si Dieu n'existe pas, le problème de la nature garde son absolu. Le problème de la personne, si Dieu existe, est pour moi capital. Parce que c'est sans doute, alors, ici je mets sans doute, c'est sans doute la rencontre de la philosophie de la nature et de la philosophie de la personne qui va être le point crucial pour découvrir l'existence de Dieu. Autrement dit, une pure philosophie de la nature, sans regarder la philosophie de la personne, peut-elle découvrir l'existence de Dieu ? Interrogation. Ou est-ce que la philosophie de la nature va jusqu'à la personne humaine et que c'est avec le problème de la personne humaine que l'existence de Dieu se pose avec acuité. Je crois en effet. Alors là, c'est une vérification qui, historiquement, est là pour en montrer l'importance. Je crois que si je reste uniquement au niveau de la nature, philosophie de la nature, j'aurai une peine énorme à découvrir l'existence de Dieu. Je pourrais le faire, mais cette preuve de l'existence de Dieu serait extrêmement ténue, puisque ma connaissance de l'être au plan métaphysique demeure une connaissance extrêmement ténue, très forte, substance, acte, mais ténue en ce sens que qui a une substance en dehors de l'homme? Qui est en acte en dehors de l'homme? Or, c'est justement substance et acte qui sont principes et qu'il faut pouvoir saisir comme principe pour pouvoir les dépasser. Dieu n'est pas substance, Dieu n'est pas acte. Dieu n'est pas la substance de l'être, Dieu n'est pas l'acte de l'être. Mais la substance et l'acte sont saisis comme des principes. Et ces principes me permettent d'affirmer l'existence d'un être premier. Je peux donc prouver l'existence d'un être premier à un point de vue purement métaphysique de l'acte et de la substance et de l'acte. Mais, étant donné l'importance de ce problème, étant donné la difficulté d'autre part de raisonner métaphysiquement sur le sujet de la substance et de l'acte, ma connaissance du principe, du sujet, de la personne, va être pour moi un chemin plus direct. Découvrir l'existence de Dieu. Ce sera le chemin même de l'amitié. Mon expérience la plus parfaite de l'être, mon expérience la plus parfaite de ce qui est, de ce qui existe, c'est l'expérience de l'amour d'amitié. Je ne peux pas avoir une expérience plus parfaite de l'être que celle de l'amour d'amitié. Parce que je n'ai pas l'expérience de Dieu, je n'ai pas l'expérience de l'être premier. De l'homme, l'être le plus parfait que j'expérimente. Et je ne peux pas expérimenter un être plus parfait que l'homme. Je n'ai pas l'expérience des soucoupes volantes. Je n'ai pas l'expérience d'un type d'homme qui serait autre que celui que je connais sur la terre. Donc, mon expérience la plus parfaite de l'être, je dis bien l'expérience la plus parfaite de l'être, c'est celle que j'ai de mon ami. Et cette expérience de mon ami, me conduit d'une façon très différente, mais me conduit à me poser la question de l'existence d'un être premier, d'un ami premier. Si l'homme peut-être mon ami, si l'homme peut-être mon ami, est-ce que cette expérience ne me permet-elle pas de poser l'existence d'un être premier? Si ceci est vrai, vous comprenez que cette expérience de mon ami est une route, une via, une route, une voie beaucoup plus humaine que la via métaphysique de l'être. C'était en parallèle. Il faut faire et tenir ces deux parallèles. La foi métaphysique de l'être, la foi métaphysique de l'amitié. Et je vois tout de suite que l'expérience que j'ai de mon ami, comme ami, est une expérience beaucoup plus forte, beaucoup plus parfaite que l'expérience que j'ai de ceci. Celui-ci est mon ami, ceci est. Toute la différence entre les deux. Et je crois que c'est très important de bien voir la différence entre les deux. Les deux reposent sur l'existence, sur une réalité qui existe. Ceci est mon ami. Si je peux unir ces deux expériences, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas les unir, puisque toutes les deux reposent sur quelque chose qui est humain. L'expérience de mon intelligence humaine. Ceci est mon ami. La différence, c'est que quand je dis ceci est mon ami, le point de vue affectif le choix affectif de l'ami, est beaucoup plus éclatant, beaucoup plus fort que le choix du jugement d'existence. Ceci est. Ce sont deux points que je touche par mon intelligence et mon cœur. Un implique un très grand dépouillement, l'autre implique une affectivité très limpide. Ceci est, l'affectivité n'est pas présente. Quand vous dites ceci est, votre affectivité métaphysique, elle est présente, mais elle reste métaphysique. En tant qu'être est aimable. Tout être en tant qu'être, je puis l'aimer. Il est bon. Mais tout être en tant qu'il est ne déborde pas d'affectivité. Ça reste dans une exigence philosophique extrêmement pur. L'affirmation, au contraire, lui est mon ami. Cet homme est mon ami. Cette femme est mon ami. L'affectivité de l'homme ou de la femme, puisque nous avons vu et l'autre, sont authentiquement des expériences uniques de ce qui est. Dans l'expérience de mon ami, celui-là est mon ami, celle-là est mon ami. Je montre que mon amitié me donne un sens de ce qui est très unique. Ce qui est la personne, elle est présente. Tandis que dans le jugement d'existence, ceci est, la personne n'est pas explicitement présente. Donc là, il y a une très grande différence. Dans le jugement d'existence, ceci est, je suis en face de l'être. Dans le jugement d'existence, celui-ci est mon ami. En présence d'une personne. Et je peux dire que l'un et l'autre sont termes à ma métaphysique. Ma métaphysique est une métaphysique humaine, donc elle est la métaphysique de l'être. Il est la métaphysique de la personne humaine. Une métaphysique qui ne serait que de la métaphysique de l'être risquerait toujours de perdre son caractère propre de saisie d'un être existant. Et je tomberai dans l'erreur d'une abstraction trop grande. Dans mon expérience, celui-là est mon ami. Je découvre dans mon amitié, dans mon amour, la personne humaine. Donc, vous voyez, les deux grandes découvertes de l'être et de la personne sont au terme de ces deux constatations, de ces deux expériences. Je puis maintenant montrer que ces deux expériences sont mes deux expériences extrêmes humaines. L'une fait appel à l'intelligence et au sens. Ceci est le toucher. C'est le toucher qui me permet de dire ceci est. Et l'autre fait appel à mon intelligence unie à mon affectivité, mon amour. Ceci, celui-là est mon ami. Je suis donc en présence des deux expériences extrêmes qui caractérisent l'homme. L'homme implique ces deux expériences. L'une restant au niveau de l'alliance de l'intelligence et des sens, l'autre étant en présence de l'intelligence et de mon affectivité. Donc, des deux côtés, je suis en présence de l'intelligence qui saisit deux modes particuliers de l'être, mais qui dépasse ce mode particulier de l'être pour atteindre l'être. Ces deux expériences qui sont extrêmes peuvent s'unir pour que je saisisse à partir d'elle non pas expérimenter l'être premier mais découvrir que ceci est celui-là est mon ami. Ces deux types d'expériences s'unissent dans la dernière affirmation, il existe un être premier qui est au-delà de celui que j'expérimente, qui est au-delà de celui que j'ai choisi, que j'aime, mais qui est. Ces deux modes extrêmes d'existence qui s'unissent dans l'homme, puisque l'homme peut les poser, permettent à l'homme de dépasser ce jugement d'existence, de dépasser ce jugement affectif pour poser un être. Et lui unit les deux. Le jugement d'existence est foncier, mais il n'est pas ultime. Le jugement affectif est très riche, mais n'est pas non plus ultime. C'est pas dernier. Ces deux jugements, si je les unis, me permettent ce dépassement de ce qui est sensible, de ce qui est affectif, et d'atteindre ce qui est comme nécessairement unissant ces deux jugements. Que je n'expérimente plus, mais qui est au-delà de l'un et de l'autre. Donc je ne saisis pas l'existence de l'être premier comme un être que je touche, que j'atteins, mais je le saisis comme un être qui unit ces deux extrêmes. Ces deux extrêmes ne peuvent s'unir que sans un être premier, nécessaire, au-delà de tout ce que je peux.